Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Praud.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info, bonjour Amandine, c'est tous les jours jusqu'à 13h avec vous.
Bonjour Pascal et bonjour à tous. À la une, le sud-est sous les eaux, trafic SNCF interrompu, école fermée et des habitants priés de rester chez eux. Les Bouches-du-Rhône sont toujours en alerte rouge. Dans ce journal également, cette première matinée sans masque à l'école dans 47 départements. Et puis hommage, on le disait, à Bernard Tapie, des recueils ont été installé, ça y est, au Vélodrome.
À 12h40, Tapie le Marseillais avec Franz-Olivier Gisbert. Et à 12h50, on reviendra sur son combat contre le cancer. Pourquoi n'arrive-t-on toujours pas à guérir cette maladie? On posera la question au professeur Kayat.
La question du jour sur RTL.fr. Faut-il rebaptiser le stade Vélodrome au nom de Bernard Tapie? Les supporters marseillais, certains en tout cas, l'ont demandé dès hier. Vous dites oui à 34%, non à 48%. La météo du jour avec vous, Louis Baudin, bonjour. Il y a ces alertes, on va y revenir dans le journal, dans un instant, dans le sud-est et ailleurs.
Ah bah ailleurs c'est beaucoup mieux, hein. Ailleurs on a retrouvé de très belles éclaircies, il restera quelques averses quand même dans le nord-est ou encore près de l'Atlantique. Même chose sur le littoral de la Manche, mais ça n'aura plus rien à voir avec ce qui s'est passé durant le week-end. Donc dans ces régions, du soleil, puis les températures un peu justes, hein. 16 à 19 degrés dans le nord, 19 à 25 dans le sud.
Merci beaucoup Louis, à tout à l'heure, 13h donc, et dans le journal, dans un instant.
RTL Midi.
Et on part justement donc dans le sud-est. La circulation des trains, je vous le disais, est interrompue depuis midi entre Marseille et Avignon, Marseille et la Côte d'Azur également. Les écoles du Var, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône sont fermées. Les habitants priés de rester chez eux, hein, c'est ce que réclame le maire de Marseille, mais aussi la préfecture des Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône où il est tombé l'équivalent de 2 mois et demi de précipitations. Étienne Baudu, bonjour, vous êtes à Marseille, dans l'un des quartiers les plus touchés.
Oui, dans le quartier de la Barrasse, dans le 11e arrondissement. Et effectivement, l'alerte est ici prise très au sérieux. J'ai rencontré un habitant qui a eu ce matin 1 mètre d'eau chez lui, des dégâts relativement importants. Il avait à la main une raclette pour évacuer la boue entrée chez lui, mais dépité, il ne savait pas s'il ne travaillait pas pour rien, car cet après-midi, effectivement, les prévisions sont très mauvaises. Actuellement, le ciel, via la mer, hein, c'est par là que ça va arriver, est en train de se couvrir, même s'il y a encore un rayon de soleil. Et puis, il y a eu des indications très précises de la part de la préfecture, hein, avec des mots d'ordre très, très rigoureux. Hein. Restez chez vous, en étage, au dernier recours sur le toit, éloignez-vous des cours d'eau et rejoignez un point haut. Ne vous engagez en aucun cas à pied ou en voiture sur des voies immergées. Ne descendez pas dans les sous-sols et évidemment, n'utilisez pas votre véhicule. Alors ce matin, justement, la préfecture a demandé aux parents d'élèves qui avaient déjà emmené leurs enfants à l'école d'aller les prendre au moment de midi où effectivement il y avait une accalmie. En attendant, pour éviter évidemment que ce soir les gens viennent vers 17h, peut-être au plus mauvais moment pour prendre les enfants. Et donc voilà, des mots d'ordre très très importants. Le maire de Marseille était justement à la Barrasse il y a un instant et il répétait ces mots d'ordre. Faites très attention cet après-midi.
Merci beaucoup Étienne Baudu en direct de Marseille. Louis Baudin, des consignes très strictes parce que ce n'est pas terminé en effet.
Exactement, totalement justifié. Alors c'est vrai qu'il y a des petites périodes d'accalmie, donc on peut se dire bon ça y est, le plus gros est passé. Non, hein, d'autres orages reviennent et remontent de Méditerranée. Je les vois déjà sur les images radar. Donc tout au long de l'après-midi, attention, on aura encore de très fortes précipitations s'accumulant, s'ajoutant à ce qui est déjà tombé. Donc le risque majeur existe encore au moins jusque durant la soirée.
Au moins jusque durant la soirée, 19h, 20h
Oui, à peu près. Et ensuite, ça devrait quand même se calmer avec la nuit.
Merci beaucoup Louis Baudin pour toutes ces précisions. Et on fera bien sûr un point complet sur la météo tout à l'heure à 13h.
Première matinée sans masque à l'école pour les élèves de primaire de 47 départements.
Tous ceux dont le taux d'incidence est inférieur à 50 pour 100 000 habitants. C'est le cas notamment de la Meurthe-et-Moselle. Dimitri Ramelot, vous êtes rendu à Nancy où les enfants, ça y est, ont retrouvé le sourire.
Oui, première matinée, récréation sans le masque pour Théo, 8 ans, en classe de CM1, et la fin pour lui de beaucoup de problèmes.
J'ai du mal à respirer avec, j'entends pas mes copains parler, et au bout d'un moment, ça me donne mal à la tête.
Et donc un large sourire sur le visage de cet élève de la classe de Martine Garcia qui a déjà vu la différence dans l'attitude et l'attention pendant les leçons.
Ils étaient heureux, ils souriaient. On voit que eux, ça leur fait plaisir. Alors nous, on doit toujours le porter en espérant que bientôt on pourra l'enlever aussi. Après, c'est vrai que c'est plus facile parce que quand ils parlent, on les comprend beaucoup mieux que quand ils avaient le masque, il fallait les faire répéter plusieurs fois, donc c'était pas toujours agréable.
Et le papa de Théo veut tout de même rester attentif à la situation sanitaire.
Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut aussi savoir rester prudent, donc je vais bien expliquer les gestes barrières, de bien se laver les mains, de bien faire attention et on va faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien.
Et pour les mesures supplémentaires mises en place au sein du foyer, un test antigénique pour tout le monde, une fois par semaine à la maison.
Reportage de Dimitri Ramelot à Nancy pour RTL. Toute autre ambiance en Guyane où la situation reste préoccupante. Le taux d'incidence y dépasse les 600 pour 100 000 habitants dans 8 communes. Résultat, les collèges et lycées sont à nouveau fermés, et ce, au moins jusqu'au 14 octobre. Emmanuel Macron est en visite aujourd'hui en Haute-Saône, visite dans un refuge de la SPA au chevet de la cause animale. Un déplacement à l'occasion de la journée mondiale des animaux et à 200 jours du premier tour de la présidentielle, un sujet sensible. On se souvient du score du parti animaliste aux européennes, 2,2%, presque autant que le parti communiste. Le chef de l'État qui, dans une lettre aux Marseillais publiée par le quotidien La Provence, rend hommage à Bernard Tapie. Le visage de la victoire s'en est allé, écrit Emmanuel Macron, mais son souffle continuera d'habiter la cité phocéenne. Hugo Hamelin, vous êtes sur place pour RTL. Encore oui. Beaucoup de monde au Vélodrome, hein, où des recueils de condoléances ont donc été mises à la disposition du public.
Exactement, sous les reflets de la coupe aux grandes oreilles dont une réplique trône dans ce salon du Vélodrome en face des recueils de condoléances. Certains ont fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir glisser un petit mot. Il y a des jeunes, des anciens, Tapie avait conquis ici plusieurs générations.
Je suis quand même supporter depuis 1946. C'est pas un membre de ma famille, mais presque.
Qu'est-ce que vous avez écrit ?
J'ai mis Bernard Le Bos, repose en paix, et j'ai signé mon nom. C'est dur pour tous les Marseillais, hein.
Moi, j'étais pas né en 93 quand on a gagné avec des champions. Aujourd'hui, si je vais au stade toutes les semaines aussi, c'est en partie grâce à l'histoire qu'on a eue. Du coup, voilà, il fallait que je vienne quand même écrire quelques mots ici pour lui rendre hommage.
Alors, on n'a pas seulement parlé de l'OM, on parle aussi ici de son engagement politique. Il a toujours défendu les immigrés, me glisser un père de famille ému. Une chapelle ardente sera organisée ici jeudi avec un dernier détour de Bernard Tapie au stade Vélodrome.
Avant les obsèques donc prévues vendredi et cette cérémonie à Marseille. Et puis une messe sera célébrée mercredi à 11h en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Merci beaucoup Hugo, vous étiez en direct de Marseille. RTL recevait ce matin l'ancien procureur de Valenciennes, Éric de Montgolfier, en poste au moment de l'affaire VAOM. Et il est notamment revenu écouter sur ce jour où Bernard Tapie est venu pour la première fois dans son bureau.
Il a évoqué les gens qu'il connaissait, peut-être même que nous connaissions, sans me les citer d'ailleurs. Les gens qu'il connaissait, oui. Pardon monsieur le procureur, je suis en retard. J'arrive de l'Élysée, j'étais avec le président. Voilà, c'est lui qui a planté le décor. Mais il était dans mon bureau, ce qu'il avait oublié, et que ce bureau était un bureau du palais de justice. Moi, je ne me plains pas d'avoir eu Bernard Tapie en face de moi. C'est bien d'avoir un justiciable qui a du répondant. Ça vous stimule, ça vous oblige, ça vous contraint même à être attentif, à avoir les yeux ouverts.
Éric de Montgolfier, invité ce matin d'Yves Calvi sur RTL.
Tapie le Marseillais, ce sera à 12h40 avec Franz-Olivier Gisbert. Et puis à 12h50, on reviendra sur son combat contre le cancer.
Marseille, où des policiers de la BAC Nord ont essuyé hier des tirs d'armes à feu. Bonjour Alice Moreno.
Bonjour.
Ces policiers étaient en pleine opération dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants.
Oui, deux équipages de la BAC Nord procèdent à l'interpellation d'un petit vendeur de stupéfiants dans la cité de la Bricarde hier après-midi. Quand une dizaine d'hommes s'engouffrent dans un immeuble à proximité, ils redescendent rapidement de cette tour et deux d'entre eux sont armés. L'un porte une Kalachnikov, le second une arme de poing. Ils visent alors les policiers qui parviennent à se mettre à l'abri derrière un muret à proximité. Plusieurs impacts de balles ont été découverts sur place. Les tireurs ont pris la fuite. Un individu du groupe non armé est interpellé. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années, connu de la justice pour trafic de stupéfiants, port d'armes et violence. Le RAID a été appelé en renfort pour sécuriser le secteur. Plus tard, la police judiciaire de Marseille est retournée dans l'immeuble l'immeuble d'où étaient sortis les tireurs, ils ont découvert un arsenal sur place, 3 fusils automatiques, un pistolet automatique, un revolver, des gilets pare-balles et des talkie-walkies.
Alice Moreno du service police-justice d'RTL. Près de 18 ans après le naufrage du Bugalet-Braise, les familles des victimes espèrent beaucoup de cette audience qui s'ouvre aujourd'hui à Londres. 3 semaines pour tenter d'expliquer les circonstances de ce drame qui, on le rappelle, a coûté la vie à 5 marins, Marie Billon.
Ce matin, les familles de 3 des pêcheurs, Pascal Le Floch, Yves-Marie Glohagen et Georges Le Métayer, ont eu l'autorisation de dresser un portrait de leurs disparus. Cet après-midi, c'est un expert de la marine, le capitaine Soumerau, qui va commencer à témoigner. Il doit détailler les faits et les preuves qu'il a en sa possession liées au naufrage du Bugalet-Braise. Cette inquest doit durer 3 semaines. Une trentaine de témoins prendra la parole. Le plus attendu, c'est le commandant du sous-marin britannique, le HMS Turbulent, qui est soupçonné notamment par l'avocat des familles des victimes d'avoir tiré le chalutier par le fond. C'est bien une inquest, une procédure judiciaire britannique qui vise à faire la lumière sur ce qui s'est passé. Ce n'est pas un procès, il n'y aura pas de condamnation.
Marie Billon, la correspondante d'RTL à Londres. Et puis, début aujourd'hui de la saison des Nobel et celui de médecine, sachez-le, a été attribué à 2 Américains, David Julius et Ardem Patapoutian, pour leur découverte sur la façon dont notre système nerveux ressent la température et le toucher.
Tapis le Marseillais depuis hier, beaucoup de témoignages, beaucoup d'hommages qui lui sont rendus. On sera avec Franz-Olivier Gisbert et à 12h50, on reviendra sur son combat contre le cancer. On sera avec le professeur Kayat. C'est vrai que certains cancers, cancer de l'estomac, de l'œsophage, du foie, sont des cancers très agressifs et on a le sentiment qu'ils sont quasiment incurables. On posera la question à M. Kayat. À tout de suite.
RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
C'est la légende, Tapi. Le boss, quoi.
C'est son identité, voilà, c'est d'aller droit au but. Il s'est imprégné de Marseille, de son identité, de sa diversité. Et Bernard Tapie, c'est Marseille.
Depuis hier, ils sont des centaines, des milliers même à être venus au Vélodrome pour rendre un premier hommage à Bernard Tapie. Tapie, c'est Marseille, disait à l'instant l'un d'eux. Bonjour Franz-Olivier Gisbert.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous dans RTL Midi. Comment vous expliquez ce lien, cette alchimie qui est entre Marseille et Bernard Tapie? Bien sûr, il y a le foot et ce titre européen, mais on a l'impression qu'il n'y a pas que ça.
Ah bah c'est simple, c'est que Marseille adore qu'on l'aime. Mmh. Marseille aime qu'on l'aime. Et c'est vrai que Tapie adorait Marseille. D'ailleurs, en 2017, il disait, avant que le cancer arrive, il disait qu'il allait s'installer à Marseille. Il cherchait une maison avec un grand jardin pour mettre tous ses animaux qui sont à Comble-la-Ville. Il voulait, dans la région parisienne, là où il a sa résidence secondaire, et il voulait mettre toutes ces bêtes-là. Et donc, il voulait un terrain quand même assez important. Et il cherchait, et puis aussi même du côté d'Aix. Et puis, en fait, le cancer l'a obligé à rester à Paris et à sursoir à ses projets. Donc, Marseille, c'est sa ville, ses parents ont vécu là, même si enfin, son histoire, c'est vrai qu'elle commence dans le 93, c'est un gosse de la Seine-Saint-Denis qui a été élevé dans un taudis, c'est lui qui disait ça, de 20 mètres carrés, enfin, c'était son enfance, après son père a un peu, enfin, comment dire, a monté sa petite entreprise, mais au début, c'était son enfance, c'était dans un taudis de 20 mètres carrés, juste en face du parc municipal du Bourget.
Franz-Olivier, je vais vous proposer une gageure. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui de Bernard Tapie qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas entendu depuis hier 24 heures?
Écoutez, moi, il y a quelque chose, vous le connaissez bien, il donne l'impression d'être brutal, autoritaire, etc. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que Tapie, c'est le contraire de ce qu'on raconte. C'est-à-dire que, par exemple, le m'as-tu vu, c'est un m'as-tu vu d'une certaine manière. Et de l'autre côté, il est d'une pudeur dingue. Ça, c'est le biographie parle. Faire un bouquin avec lui, c'est une horreur. Il répond pas aux questions. Vous êtes obligé de revenir à la charge, de reposer des questions. Ce qui peut prendre 5 minutes avec n'importe qui, avec lui, ça peut prendre 2 heures pour obtenir
la même chose. C'est pas un exhibe. C'est ça qui est paradoxal.
Pas du tout. Ouais, paradoxal. C'est vrai, ça. Il a ses jardins secrets et il lutte pour les garder secrets. C'est-à-dire, voilà, il y a des fils de barbelés autour et vous n'avez pas le droit de rentrer. Par exemple, son rapport avec la religion. Et ça me frappe beaucoup. C'est-à-dire, ces choses qui sont assez petites parce qu'on ne le voit pas comme ça. C'est-à-dire, on a tendance à voir l'image médiatique qu'il y avait. Mais derrière cette image médiatique, évidemment, comme toujours, il y avait quelqu'un d'autre. il y avait un homme, en fait, très pudique. Pas, je dirais pas secret, mais extrêmement pudique. Enfin, ça revient au même, de toute façon, parce que ses secrets, il les gardait. Et aussi, le côté autoritaire, brutal, ça, qui transparaît toujours, d'ailleurs, les commentaires parfois d'anciens collaborateurs. En même temps, derrière tout ça, il y avait aussi beaucoup de sentimentalité et d'affectivité. C'est-à-dire que, moi, Dieu sait si je me suis engueulé avec lui. Mais, et puis même parfois, c'est, on sent une brutalité physique, même en face de vous. Et puis, vous avez connu ça aussi, je pense, Pascal. Et en même temps, il y a beaucoup d'affectif. C'est-à-dire, ça finit tout ça par des embrassades. Vous voyez?
Non, mais il y a physique, quelque chose de physique, c'est incontestable ça, lorsqu'on rencontre Tapie. Mais il y a aussi un autre chapitre qui est intéressant pour ces hommes de pouvoir et ces hommes de séduction, c'est le rapport aux femmes. On sait, on découvre chez François Mitterrand et chez d'autres une galerie de portraits dans la coulisse. C'est pas le cas chez Bernard Tapie.
Il y a une femme,
c'est Dominique, et c'est assez rare à ce niveau de réussite, de pouvoir, d'argent et de séduction.
Oui, d'autant plus qu'elle a un pouvoir absolument considérable. Hein. Elle se fait toujours discrète, elle ne dit rien, vous venez le voir, elle vous propose un café ou à boire, et après elle disparaît. Et en même temps, tout le monde sait qu'elle avait un pouvoir absolument.
Sophie Tapie, elle le dit, soit de la mairie de Marseille, par exemple.
Non, mais Sophie Tapie disait, c'est elle qui commande à la maison.
C'est elle qui commande, bien sûr. Et ils ne discutent pas. C'est-à-dire, ils ont un portrait fusionnel, hein, ça c'est important de savoir par exemple que quand il était en prison, dans sa cellule, à une heure dite, le soir, en fin de journée, il s'allongeait sur le sol, il essayait de communiquer mentalement avec elle, et il faisait la même chose de l'autre côté. Donc, espèce de, oui, entre eux, il y a les forces de l'esprit, mais aussi plus que ça, c'est-à-dire que c'est un rapport complètement fusionnel, quoi. Elle a un rapport d'égalité. Moi, j'ai tendance à penser, oui, effectivement, c'est elle la patronne. Moi, c'était elle la patronne dans la maison. Et même sur d'autres sujets. Sur tous les sujets, elle intervient. Sur les collaborateurs, c'est évident. C'est évident, on le sent. Mais on sent, par exemple, il vous dit un truc, ça vous paraît bizarre, on dit, puis après, il dit, je te rappelle. Ben, qu'est-ce qui se passe? Vous croyez qu'il réfléchit tout seul ou il va
parler
avec sa femme? Et il me rappelle, oui, je pense.
Et vous savez bien qu'il n'y a pas de grande réussite sans une femme derrière.
Oui,
en tout cas, à côté.
Exactement.
Et c'est une femme qui le pousse à Marseille, quand même, au départ. Hein, Edmond Charleroux, quand même, il faut le rappeler.
Oui, c'est une femme, mais Dominique, sa femme, elle, n'aime pas qu'il fasse de la politique. Et elle avait raison, bien entendu. Elle n'aime pas ce monde-là. Elle pense que c'est dangereux pour lui. Et là, d'ailleurs, je raconte dans le livre que j'ai une conversation avec Tapie. Quand il a acheté la Provence, je lui dis, attends, tu crois que tu vas devenir maire de Marseille parce que tu as racheté la Provence, on n'est plus autant de faire, ça ne marche plus comme ça maintenant les choses. Et il se marre et il me dit, mais non, attends, de toute façon, je ne peux pas me présenter à la mairie de Marseille. Dominique m'a dit qu'elle me quittait si je me présentais. Ouais,
je renvoie à votre livre, Leçon de vie, de mort et d'amour. Et vous avez réussi à cette gageure qui n'était pas simple. Je pense que nous avons dit sur Bernard Tapie des choses qui n'ont pas été dites, ou en tout cas moins dites, depuis 24 heures. Donc bravo à vous, vous avez passé l'examen de journalisme première année.
Merci professeur Pascal.
Et on vous retrouve,
Franz,
à 20h avec Flavie Flamand, émission spéciale sur RTL, jour J, bien sûr, comme tous les soirs.
À 20h avec Flavie Flamand, absolument.
À 12h50, donc c'est maintenant, on revient sur son combat contre le cancer. On va être avec le professeur Kayat. Et c'est vrai que ces cancers sur les parties molles, c'est-à-dire l'estomac, la vésicule, le foie, on a le sentiment que c'est extrêmement difficile de les guérir. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
La méthode Coué, ça consisterait à dire « moi j'ai le moral, j'ai la pêche, etc. » Ça marche pas. Il y a une seule chose qui marche. Une seule, c'est l'énergie. Parce que c'est l'énergie qui donne à vos défenses le moyen de combattre cette saloperie. Et c'est un vrai combat, c'est un truc à mort. Moi, je le traite de tous les noms, mon cancer. Je me lève le matin avec envie de lui péter la gueule.
On n'a pas à se vanter de trouver le courage. On a à avoir honte de ne pas l'avoir. Et il faut l'avoir. Il est à la portée de tout le monde. D'autant plus qu'aujourd'hui, la science va à une vitesse incroyable. Donc celui qui aujourd'hui est atteint d'un cancer dit mortel à court terme, c'est pas sûr. Donc il faut se battre.
jusqu'au bout, il n'aura rien lâché. Il faut se battre, martelait-il à chaque interview. C'est finalement le cancer qu'il a emporté, mais Bernard Tapie aura sans doute aidé bon nombre de malades dans cette bataille. Bonjour professeur Kayat.
Bonjour madame.
Merci d'être en direct avec nous sur RTL. Vous êtes, je le rappelle, cancérologue, ancien directeur de l'Institut National du Cancer. Un mot d'abord sur ce courage, l'énergie, c'est ça aujourd'hui le meilleur traitement contre certains cancers en tout cas ?
Alors, l'énergie, c'est pas le traitement, mais c'est ce qui permet de supporter le traitement, et c'est le traitement qui peut aujourd'hui vous guérir beaucoup plus que par le passé. En d'autres termes, c'est un combat, ce qu'a dit Bernard Tapie tout au long de sa maladie. Chaque jour, c'est une épreuve, chaque jour, c'est un challenge. Chaque nouvelle chimio, chaque nouveau rayon, chaque nouvelle opération, chaque nouveau traitement, chaque fois, c'est de nouveau un engagement qui nécessite de mettre en jeu de l'énergie. Si vous ne mettez pas en jeu cette énergie, le cancérologue, il peut pas vous donner les traitements. Vous les supportez pas, vous rechignez, vous demandez à arrêter, vous demandez à diminuer la dose. Et ça, vous perdez des chances. Donc l'énergie, c'est pas ce qui guérit, d'ailleurs, je crois pas que Tapie l'ait jamais dit, mais l'énergie, c'est ce qui vous permet d'entrer dans le combat avec l'envie de vaincre.
David Kayat, on va être prudent parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui souffrent d'un cancer de l'estomac ou du pancréas ou de la vésicule biliaire. Mais on a le sentiment que ces cancers-là que je viens de citer sont particulièrement agressifs et peut-être sont aujourd'hui difficilement guérissables. Est-ce que c'est une réalité ?
Alors en fait, dans les cancers que vous avez cités, il y a deux situations différentes. Les cancers de l'estomac avec et l'œsophage, puisque c'était ce qu'avait Monsieur Tapie, ce sont des cancers dans lesquels le pronostic s'est beaucoup amélioré par rapport, ne serait-ce qu'il y a même pas 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a maintenant ce qu'on appelle des thérapeutiques ciblées, c'est-à-dire qu'il y a un petit sous-groupe de malades atteints de ce type de cancer qui peut bénéficier d'un médicament qui tue spécifiquement ces cellules cancéreuses.
Donc on peut guérir, par exemple, d'un cancer de l'estomac ?
Alors, guérir au stade des métastases, non. Mais avant le stade des métastases, oui. Les traitements qui font chirurgie, rayons, chimio, immuno, tout ça, quand vous mélangez tous ces traitements, donc c'est vraiment des stratégies complexes, vous avez vraiment une énorme probabilité aujourd'hui de guérir de votre cancer. Quand il y a une métastase, le problème est très différent. Ces mêmes traitements qui sont efficaces au stade initial sont quand même efficaces. Ils vont prolonger votre vie, améliorer votre confort de vie, mais il est peu probable qu'ils vous guérissent. À côté de ça, il y a des cancers pour lesquels il y a eu très, 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 très peu de progrès ces dernières années. C'est le pancréas, c'est le foie, la vésicule, par exemple, vous avez cité. On peut citer également la tumeur du cerveau, qu'on appelle le glioblastome, pour lesquels l'espérance de vie est faible. Et la raison principale, c'est que ce sont des cancers qui se diagnostiquent tardivement. Pas pour le cerveau. Le cerveau, le problème, c'est qu'on ne peut pas opérer. S'il faut enlever la moitié du cerveau, le malade, il n'y a plus de vie. Donc, mais pour le foie, tout ça, le pancréas, le problème, c'est que la plupart du temps, ce sont des cancers de diagnostic tardif avec des traitements qui sont relativement peu efficaces. Alors, on a prolongé un peu la vie, hein, mais relativement peu. Et puis, alors, il y a ce cancer particulier qui est le poumon, parce que lui aussi, il se développe dans un tissu qui est le poumon qui est mou. Si vous allez chez le marchand d'abat, le poumon, c'est mou, hein. Donc, le cancer se développe. Alors, là aussi, il y a eu dans les traitements des progrès mais majeurs. Moi, j'ai des malades guéris au stade de métastase. Impensable il y a 5 ans. Mais ce qu'il y a, c'est que là, il faudrait faire du diagnostic parce qu'avant que ça parle, une tumeur, elle se développe dans un organe mou et elle met longtemps avant de donner des symptômes.
Oui, mais alors là, la prévention, ce serait quoi ? Ce serait alors, de faire tous des scanners, mais on ne peut pas tous passer en scanner à 60 millions de Français.
Non, on ne peut pas faire un scanner de tout le corps, mais il y a eu 3-4 études internationales de très grande envergure qui ont confirmé que chez les fumeurs de plus de 50 ans, faire un scanner hélicoïdal, c'est-à-dire un scanner qui ne donne pas beaucoup de rayonnement sur le thorax, hein, qui irradie peu, faire un scanner comme ça tous les ans ou tous les 2 ans, ça permet, tous les cancers qu'on va trouver, on va être à plus de 90% de guérison. Alors que les cancers qu'on va trouver sur la radio du poumon, comme on faisait avant dans l'entreprise, ou pas, en attendant qu'il y ait des symptômes, que le mec se mette à tousser, tout ça, là, on est à des taux de guérison qui sont à peine de 30%. Et si donc là, c'est un problème d'assurance. Aux États-Unis, les assurances remboursent ce scanner régulier de dépistage chez des gens qui n'ont aucun symptôme et qui sont très à risque, hommes de plus de 50 ans, ayant fumé plus d'un paquet par jour pendant 20 ans et continuant de fumer.
Bah merci Monsieur Kayat, merci pour ces précisions. Nous on va évidemment poursuivre avec les auditeurs à la fois sur Bernard Tapie et peut-être sur cette partie que nous avons développée à l'instant, à savoir le cancer, et peut-être aura-t-on des témoignages de gens qui souffrent d'un cancer et qui ont envie de nous appeler. Pour le moment, c'est le rappel des titres dans une seconde.